C'est le journal de Frédéric Saïs. Bonjour Frédéric.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Renaissance, voici le thème du feu d'artifice tiré à Nice hier soir, le premier pour un 14 juillet depuis l'attentat de la promenade des Anglais en 2016. Et trois ans après, vous l'entendrez, les survivants sont rattrapés par le traumatisme. Au-dessus de nos têtes, en ce moment, près de 1500 satellites. Enjeu commercial, mais aussi militaire. Emmanuel Macron annonce d'ailleurs la création d'un commandement militaire de l'espace. Explication dans ce journal et avec votre invité à 8h20, Amélie Paris.
Oui, la ministre des armées, Florence Parly, s'arrête dans notre studio avant le défilé sur les Champs-Élysées. On parlera justement de cette armée de l'espace. La France vient également de se doter d'un nouveau sous-marin. Elle continue de combattre également les terroristes en Afrique. Rendez-vous dans 20 minutes pour le grand entretien de la matinale.
Un samedi soir, dans le noir, à Broadway, une partie de New York a été touchée par une panne de courant, 42 ans jour pour jour après le grand blackout de 1977. Et puis, De Gaulle et Malraux sur les planches, cela se passe au Festival d'Avignon. Dans 10 minutes, le journal des sports et la folle journée des Français hier sur le Tour de France.
France Inter.
Les lueurs des feux d'artifice ont de nouveau teinté la promenade des Anglais hier soir. C'est la première fois à Nice à l'occasion de la fête nationale depuis trois ans. Depuis l'attentat du 14 juillet 2016, un homme au volant d'un camion fauchait la foule et provoquait la mort de 86 personnes. 86 faisceaux lumineux brilleront d'ailleurs aujourd'hui en hommage sur la promenade des Anglais. Mais ce chiffre ne suffit pas à recenser les victimes. Des survivants qui ont échappé aux terroristes ce soir-là sont rattrapés par le traumatisme trois ans après. Sophie Parmentier.
Trois ans après l'attentat qui a touché indifféremment des enfants, des parents, des grands-parents, des familles de tout pays, de toute religion, de toute catégorie sociale qui étaient juste venus admirer un feu d'artifice au-dessus de la mer. Trois ans après, de nombreux survivants qui s'estimaient heureux d'avoir échappé à la mort ont désormais perdu le goût de la vie, rattrapés par le traumatisme, témoigne Guillaume Denoy de Saint-Marc à la tête de l'Association française des victimes du terrorisme.
Les victimes qui arrivent maintenant sont des victimes qui n'ont pas été blessées physiquement, qui pouvaient être plus ou moins près de l'événement. Il y en a qui étaient très près de l'événement, d'autres qui étaient plus lointaines, mais qui s'étaient dit, ben voilà, moi j'ai rien, je suis survivant, je suis pas blessé, je laisse la place aux blessés, aux autres, moi je vais m'en sortir. Et in fine, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des problèmes de sommeil, des problèmes d'énervement, de violence. C'est des gens qui souffrent, en fait, d'un choc post-traumatique. Alors après, nous ne sommes pas médecins, donc on les envoie vers des médecins pour pouvoir déterminer s'ils souffrent bien d'un choc post-traumatique. Mais on sent bien que c'est des gens qui ont plutôt, dans un côté très bienveillant, laissé leur place à d'autres, et qui finalement n'arrive pas à s'en sortir.
Guillaume Denoy de Saint-Marc milite pour que ces nouvelles victimes puissent être elles aussi indemnisées dans les cas de choc post-traumatique prouvés.
Le défilé du 14 juillet ce matin sur les Champs-Élysées, parade aérienne à partir de 10h35, l'Europe de la défense à l'honneur. 9 pays européens ont été invités à participer à l'événement, dont le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne et le Portugal. Dans le défilé également, des jeunes recrues du SNU, le Service National Universel.
Et puis Frédéric Saïs, un commandement militaire de l'espace.
Et ce n'est pas un nouvel épisode de Star Wars, mais un souhait d'Emmanuel Macron. Le président, hier soir, lors du traditionnel discours aux armées, a annoncé la création de cette nouvelle structure. Ce commandement de l'espace aura pour mission de protéger les satellites français, civils et militaires, car à 35 000 km au-dessus de nos têtes, les hostilités ont commencé depuis bien longtemps et la France était jusqu'ici en retard, selon Jean-Marie Collin, spécialiste des questions de défense.
Malheureusement, l'espace est militarisé depuis le tout début que Sputnik finalement a été lancé aujourd'hui, puisque depuis le départ, finalement, des satellites d'observation, des satellites pour guider les missiles balistiques sont dans l'espace, mais on ne peut pas parler de guerre dans l'espace. Il est souhaitable que l'on ne parle pas de guerre dans l'espace. Il serait d'ailleurs souhaitable que la France, les États-Unis et d'autres États aujourd'hui réfléchissent ou travaillent dans ce sens-là à ce qu'il y ait des vraies négociations pour assurer une utilisation pacifique de l'espace. Mais il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années, notamment depuis la destruction d'un satellite en 2007 par la Chine, la même chose par les États-Unis en 2008, puis par l'Inde en 2019, de la nécessité de s'assurer que les satellites français aient une vraie marge de manœuvre autonome, aient la capacité de ne pas être approchés par d'autres satellites. Donc c'est tous ces enjeux-là qui sont aujourd'hui, qui vont être réunis derrière l'armée de l'air et de l'espace.
Jean-Marie Collin, chercheur au groupe de recherche de l'information sur la paix, propos recueillis par Philippe Lefébure. Et parmi les réactions politiques à ce nouveau commandement militaire de l'espace, celle du député France Insoumise Bastien Lachaud, membre de la commission de défense à l'Assemblée. Une nouvelle fois, Emmanuel Macron obéit à Donald Trump qui voulait militariser l'espace au lieu de promouvoir le désarmement. Fin de citation. 8h05 sur France Inter. terre. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants au Soudan hier, rassemblement dans le calme pour rendre hommage aux protestataires tués il y a un peu plus d'un mois par la junte. Au moins 136 personnes avaient perdu la vie. Les manifestants demandent un transfert du pouvoir aux civils. Un accord a été trouvé entre les deux camps, mais il n'est pas encore signé. Une nouvelle réunion doit avoir lieu aujourd'hui.
La suite de votre journal, Frédéric Saïs. À New York, les écrans de Times Square et les enseignes de Broadway sont restés éteints une partie de la nuit.
Et ce n'est pas une conversion soudaine à l'écologie dans la ville qui ne dort jamais. Il s'agit d'une panne de courant qui a touché une partie de Manhattan et près de 40 000 habitants. Cela 42 ans, jour pour jour, après la grande coupure d'électricité qui avait frappé New York en 1977. Alors hier soir, dans les rues, l'ambiance était un peu irréaliste. Récit de notre correspondant Loïc Loury.
Des chanteurs du mythique Carnegie Hall en représentation sur le trottoir. Ce n'est pas un happening, c'est l'une des conséquences de cet exceptionnel blackout. À Manhattan, 42 000 personnes ont été privées d'électricité en début de soirée, chiffre presque anodin au regard des scènes rarissimes auxquelles New-Yorkais et touristes ont pu assister. À Times Square, la moitié des écrans géants se sont ainsi éteints. Dans le métro, pagaille monstre pour des milliers de personnes bloquées dans les rames. Les pompiers ont également reçu de nombreux appels de gens coincés dans des ascenseurs. Certains passants, eux, ont essayé de faire la circulation face à des feux rouges éteints. Les vendeurs de hot dogs ont été sollicités comme jamais et Jennifer Lopez a dû annuler un concert au Madison Square Garden. Et comme le hasard fait bien les choses, cette panne intervient précisément 42 ans après un blackout qui avait touché presque toute la ville et entraîné cette fois d'importantes scènes de pillage. Le courant avait été rétabli après plus de 24 heures. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et cette fois-ci, le courant a donc été rétabli. Les causes précises de la panne sont encore indéterminées. Les pompiers évoquent l'incendie d'un transformateur. En France, la deuxième édition du Loto du patrimoine. Aujourd'hui, 13 millions d'euros en jeu. Une partie des recettes permet de financer quelques 269 monuments en péril. Et eux, auraient-ils pris leur ticket pour le patrimoine français? De Gaulle et Malraux mis en scène sur les planches dans le Hof à Avignon. La pièce s'appelle Le Crépuscule. C'est une adaptation des Chaînes qu'on abat, l'essai d'André Malraux, avec John Arnold et Philippe Girard pour camper les deux figures. Un grand moment de théâtre, nous dit Stéphane Capron.
John Arnold et Philippe Girard ont connu l'adrénaline de la Cour d'honneur à Avignon et pour la première fois de leur immense carrière, ils se confrontent au Festival Off. L'idée en revient au metteur en scène Lionel Courteau. Il a confié le rôle de De Gaulle à Philippe Girard. Il n'est jamais dans la caricature, il avait déjà interprété un autre président, François Mitterrand.
Il faut le réfléchir comme un personnage de théâtre parce que c'est une fiction, mais en même temps, il faut que ça soit crédible. Alors, comme pour Mitterrand, il faut susciter dans l'esprit des spectateurs la présence du fantôme.
C'est un bonheur d'entendre ces deux acteurs et la langue de Malraux magnifiquement portée par John Arnold.
Il n'y a pas si longtemps quand même, on avait un rapport à la langue qui est parti très 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 vite d'un seul coup. Qu'est-ce que ça voulait dire faire de la politique quand on devait s'adresser à des gens dans les préaux des écoles sans micro? La langue n'était pas la même. L'adresse n'était pas la même. Et donc la pensée n'était pas la même.
John Arnold et Philippe Girard mettent leur talent au service de cette pensée. Un dialogue au sommet entre deux des plus grands comédiens du théâtre français.
Et la pièce s'appelle donc Le Crépuscule dans le Hof d'Avignon jusqu'au 28 juillet. 8h et presque 9 minutes sur France Inter. Je vous laisse en compagnie d'Amélie Perrier.
C'était le journal de Frédéric Saïs. Merci Frédéric. On poursuit avec les actualités sportives cette fois avec Adrien Bossard. Bonjour.
Bonjour Amélie.
Et on commence par le joli coup des Français hier sur le Tour de France.
Julien Alaphilippe de nouveau en jaune et Thibaut Pinot troisième au général ce matin devant tous les favoris à la victoire finale. Le tout grâce à une parfaite entente des deux tricolores hier lors de la huitième étape. Julien Alaphilippe attaque dans la dernière côte. Thibaut Pinot le suit. Les deux hommes coopèrent. Ils ont tous les deux à y gagner. Un coup de maître dont Thibaut Pinot se réjouit.
C'est que du positif et il reste deux semaines. On va tenter et je suis à mon niveau de l'an dernier en fin de saison donc j'ai réussi ma préparation et c'est pour ça que, voilà, que je suis confiant pour la suite et maintenant on va avancer sur le tour. Il reste deux semaines, il y a encore deux étapes avant la première journée de repos donc rien n'est fini. Voilà, je suis content d'être troisième, on m'aurait dit ça il y a une semaine, j'aurais signé tout de suite, donc voilà, c'est du bonus pour l'instant.
Du bonus, même s'il n'y a pas la victoire d'étape à l'arrivée, c'est le Belge Thomas de Gendt qui s'impose.
Un Français en jaune donc, Julien Alaphilippe qui plus est, un 14 juillet, ça n'était pas arrivé depuis 5 ans.
Depuis Tony Galopin en 2014, c'est d'ailleurs le dernier tricolore à avoir été en jaune tout court, jusqu'à ce que Julien Alaphilippe le revêtisse en début de semaine avant de le perdre puis de le regagner. Mais l'avoir un 14 juillet, c'est encore plus spécial. Cette journée, ça donne aussi des ailes pour aller dans l'échappée et pourquoi pas gagner. Bernard Thévenet peut en témoigner, vainqueur sur le Tour un jour de fête nationale en 70.
Ce sont des souvenirs agréables là. Pour parler franchement, c'est surtout le lendemain quand on lit les articles de presse ou qu'on reçoit les félicitations des gens qui disent « Ah, c'est bien, t'as gagné un 14 juillet, formidable pour la France, pour tous ceux qui aiment le cyclisme en France, c'est très bien. » Je pense que la satisfaction, elle vient en réalité longtemps après. Sur le coup, on se rend pas bien compte de la portée, mais c'est après, chaque 14 juillet, on en reparle, ça fait plaisir, ça fait du bien, merci.
Et ça donnera certainement des idées aux Français aujourd'hui, départ de cette 9e étape longue de 170 km entre Saint-Etienne et Brioude à 13h25.
Une 9e étape que l'on vous fait vivre autrement sur France Inter.
Comme chaque jour, notre journaliste non-voyante Laetitia Bernard roule en tandem sur les routes de la Grande Boucle ce matin. C'est parti avec la pilote Martina Zagar et Jean-André Giannichini pour les moyens techniques.
Départ de la 9e étape seulement ce matin, mais des énormes courbatures, c'est dur. Du coup, je propose, Martina, qu'on fasse un petit arrêt chez le kiné.
Parfait, très bonne idée, ça me va.
J'en ai repéré un à une vingtaine de kilomètres, à Unieux. Ils ont un beau centre paramédical, on va y faire un tour.
Bah, j'aimerais bien qu'ils nous mincent un peu les jambes, ça va nous soulager pour les côtes qu'on a prévues pour aujourd'hui.
Bon, bah, c'est parti.
Enchanté, Laetitia.
Enchanté.
Ça fait combien de temps là, que vous avez ce cabinet ?
Bah écoutez, moi c'est ma 34e année d'exercice. Nous sommes un regroupement de kinésithérapeutes et d'infirmières. Et là, ça fait, on attaque la 11e année. Là.
On roule tous les jours sur les étapes du Tour de France en tandem. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être utiles pour qu'on gère mieux la journée derrière ?
Surtout, on va jouer sur le paramètre temps. C'est-à-dire les étirements que l'on fait avant l'effort sont relativement rapides. Alors qu'après, c'est plutôt des exercices d'étirement qui vont être beaucoup plus longs.
Et je me demandais aussi, une fois que c'est fini, pour la récup, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, prendre des massages avec de l'eau chaude ou de l'eau froide au niveau du jet de douche ?
On récupérera beaucoup plus avec le froid qu'avec le chaud.
Eh bien super, merci pour ces petits conseils, ça va déjà bien nous aider.
De rien, je vous en prie.
Merci à vous, merci pour l'accueil. Au revoir. Ok, 3, 2, 1. Oui, la végétation change complètement ici par rapport à hier.
Ouais, mais même à l'odeur, tu reconnais que c'est pas la même végétation.
Ouais.
C'est fou, ça.
Ah J'ai la bouche pleine d'herbe. Ça va?
Ouais, toi.
Mais en fait, oui, on est passé derrière un tracteur qui est en train de couper. C'est pour ça que ça sent bon.
Ça fait quelques projections.
Ah, elle est chouette, cette descente. Bon, faut faire attention dans les virages.
Oui, je veux bien.
Parce que je veux pas t'envoyer dans les ravins.
C'est gentil.
Et ça monte. Et ça monte.
Elle va se finir un jour, la côte ?
Ouais, j'espère. Hop là !
J'arriverai pas au bout.
Les soulagements.
Bon, on est exténués les deux, là, j'ai l'impression.
Mais pas du tout, Laetitia, pourquoi tu dis ça ?
Ah, vous, t'es fatiguée ?
Oui, je sais, j'ai mal partout.
Bon, et ben à demain.
À demain, allez, bye.
Tandem sur France Inter, à retrouver donc demain 7h17 sur France Inter.
Décidément, ce record, c'est sans doute trop de pression pour Serena Williams.
Elle court après depuis 2 ans et demi, égaler le record de Margaret Court et ses 24 titres en Grand Chelem. L'américaine rate le coche une nouvelle fois, 3e finale de suite perdue pour la tenniswoman en Grand Chelem. Cette fois, sèchement, hier 6-2-6-2 à Wimbledon par Simona Halep. Au lieu de se chercher des excuses, Serena Williams réfère louer la qualité de son adversaire.
Elle a joué formidablement et ce n'est pas une surprise de voir que mes adversaires essaient de bien jouer contre moi. J'ai tenté beaucoup de choses différentes, mais rien n'a marché. C'est devenu trop difficile pour gagner. Je ne crois pas que j'étais trop tendue. Quand vous vous mesurez une adversaire qui joue comme ça, vous ne pouvez pas grand-chose. Il faut sans doute que je retrouve la manière de gagner une finale, d'en disputer sur le circuit normal, en dehors des grands chelems. Ça pourrait m'aider. Il faut que je continue, que j'essaie à nouveau, que je travaille et surtout que je regarde devant moi.
La Roumaine Simona Halep, elle, remporte son premier titre à Wimbledon, le deuxième en Grand Chelem après Roland Garros l'an dernier. La déception côté français pour Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin. La paire s'incline en 5-7 en finale du double après un combat homérique de 5 heures contre des Colombiens Farah et Cabal. Aujourd'hui, place à la finale homme en simple. Et quelle finale ? Novak Djokovic, tenant du titre et numéro 1 mondial, face à l'octuple vainqueur du tournoi Roger Federer.
Ah oui, ça promet, on va regarder ça. Retour réussi pour le boxeur Tony Yoka.
Et oui, après un an de suspension lié à des contrôles antidopage manqués, le Français remporte son combat de reprise hier contre l'Allemand Alexander Dimitrenko par arrêt de l'arbitre à la troisième reprise.
C'était le journal des sports d'Adrien Bossard. Merci à vous, Adrien. Des nouvelles du ciel.
La météo avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Il va faire plutôt beau aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
Un temps sec est bien dégagé aujourd'hui sur la plupart des régions, avec un voile nuageux un peu plus épais ce matin du sud de l'Aquitaine au golfe du Lion et sur la Corse, et de rares ondées possibles sur les crêtes pyrénéennes. Les nuages les plus nombreux, on va les trouver aujourd'hui près de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Suisse, sous la forme d'un temps variable. Notez que pour la seconde partie de la journée, un risque d'averse mêlé de coups de tonnerre sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes du Sud et la Corse. D'une manière générale, le vent de secteur nord sera sensible, maintenant les températures vers une vingtaine de degrés à proximité de la Manche et dans le nord-est, contre 26 à 28 du sud de Bretagne au centre Val de Loire, sur le bassin parisien et en Auvergne-Rhône-Alpes, et 30 à 33 du sud de la Garonne à la Méditerranée.